Voilà, je vous invite à la prière, afin que la parole puisse devenir vie en chacun de nous. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole et tu as dit que celui qui aimera ma parole, l'amour de Dieu sera en lui. Eh bien Seigneur, que ce matin nous puissions encore mieux comprendre ta parole pour la mettre en pratique durant cette semaine et les semaines qui viennent, que nous puissions vraiment te plaire en toutes choses et accomplir ta volonté au travers de ta parole, parce que Seigneur, tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Alors merci Seigneur pour ce précieux cadeau et pour cette boussole, pour tout ce qu'elle représente pour nous. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors je poursuis le message qui consiste à regarder l'évangélisation, non pas comme un programme d'église, hein, bien que ça puisse rentrer dans un programme. Hein, on n'est pas doctrinaire, hein, au sens de dire on ne fait plus de programme. On est bien sur Terre et on est obligé de faire des programmes, ne serait-ce que pour se rencontrer, avoir des agendas. C'est pas ça. C'est l'esprit qui consiste à dire que l'évangélisation est d'abord, hein, accomplie par notre vie, par la vie. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est partager le cœur de Dieu, c'est partager l'évangile du royaume, donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Hein, c'était le contenu du message de Jésus quand il était sur terre. Il parlait du royaume de Dieu, il ne parlait pas de l'Église. Hein, Jésus, il n'a parlé de l'Église qu'à deux reprises. Qu'à deux reprises. Il utilisait le mot Église deux fois, c'est tout. Hein. Donc l'Église, c'est plutôt un mot qu'on trouve dans les Épîtres, enfin dans ce que les apôtres ensuite après, bien sûr, ont vécu et ils ont institué. Enfin, c'est Jésus qui l'a institué, mais ils ont démarré la première Église. Lui parlait du royaume de Dieu. Donc notre préoccupation, c'est le royaume de Dieu, l'évangile du royaume que nous voulons partager avec ceux qui nous entourent et le vivre au travers de notre vie. C'est Dieu qui va utiliser nos vies individuelles et notre vie d'église, pour que ce royaume puisse apparaître comme une réalité pour ceux qui le voient. Et c'est en cela que nous sommes dans un processus d'évangélisation, si nous-mêmes nous rentrons dans la vie de Dieu, dans la vie du royaume. Hello? Voilà le principe général. Donc, comment évangéliser? Donc, répandre l'évangile de Christ, l'évangile du royaume de Dieu, c'est question avec des programmes ou par notre vie, donc on n'élimine pas complètement le programme, mais c'est essentiellement par la vie. Même dans les programmes, il faut que ce soit la vie. En nous appuyant sur notre vision, puisque nous avons maintenant une vision que le Seigneur nous a donnée. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir connaissance de la vision, on aura une rencontre en décembre. Pour ceux qui l'ont. Mais même si vous avez cette rencontre, bon, je crois que la vision, c'est quelque chose, bon, que le Seigneur m'a mis à cœur, mais ça fait 20 ans que ça mûrit. Hein, je conçois que c'est pas en une présentation que je peux transmettre ce que j'ai pu comprendre, bien que pour vous, ça peut aller plus vite. Donc c'est quelque chose aussi dans les messages, vous entendrez cette vision. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de ce que nous voulons vivre ensemble. Personnellement, ensemble, c'est le cœur du message de l'Évangile. C'est l'essentiel, si vous voulez. C'est les priorités. Hein. C'est comme dans la vie, il y a des priorités. Parce que sinon, on est écartelé dans un tas de choses. Hein. Vous-même, vous avez des priorités. Même inconsciemment, vous avez des priorités. Même si vous ne les avez pas consciemment écrites sur un papier. Parce que sinon, vous seriez écartelé toute la journée à un tas de tâches diverses et variées. Donc, vous faites des priorités. Et dans la vie, il y a des priorités. Et parce que nous sommes limités et que nous ne pouvons pas tout faire en même temps, nous ne sommes pas Dieu. Et donc la priorité fait partie de la vie. Et la vision donne les priorités. Quelles sont les priorités du royaume de Dieu pour nous? Alors, un des axes de la vision, c'est la mission. Donc, ça nous aide à avoir des priorités sur ce que Dieu attend de nous, que nous fassions. Hein. Et donc c'est l'acrostiche faire qui nous aide à nous rappeler que c'est faire des disciples, hein. C'est adorer Dieu, c'est intercéder, c'est rassembler ou réunir ou être rassemblé le corps de Christ. Hein. Donc notre vision d'église, c'est d'être ouvert à tout le corps de Christ, hein, quelles que soient les dénominations, en gardant notre identité et notre théologie, bien entendu, mais en ouvrant la porte pour que chacun, nous puissions communier avec l'ensemble des croyants qui sont dans cette région, évangéliser, donc c'est le sujet de cette étude, et servir. Donc comment évangéliser, avec quels moyens? Bien sûr, avec nos valeurs qui contiennent justement les moyens et qui contiennent le sens dans lequel nous voulons le faire. Et par notre vie, sachant que la vie donne du sens à nos valeurs. Hein. Les valeurs, ce sont les principes. Nous avons des principes bibliques, principes du royaume de Dieu. Et vous savez, ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin des principes, en fait, c'est faux. Pourquoi ? Parce que s'ils n'acceptent pas les principes bibliques, ils agissent selon les principes du monde. Puisque notre âme est instruite par les choses du monde et nous devons renouveler nos pensées. Hein. Il est dit tout à l'heure, je n'ai pas terminé de lire, enfin, je n'ai pas continué de lire le Romains 12, 2, puisque le Romains 12, 1, c'est apporter vos corps en sacrifice comme un culte agréable à Dieu. Et le verset 2 dit, renouvelez vos pensées. Hein. Que vos pensées soient renouvelées. Ça veut dire que on a besoin de soumettre nos pensées à Dieu pour être renouvelées. Sinon, elles agissent selon ce qui nous a été enseigné dans le... et tout naturellement, en tant que chrétien, nous agissons selon ces pensées-là. Et donc, il y a les pensées qui doivent être renouvelées. Et la parole de Dieu nous aide à renouveler nos pensées. Et les valeurs sont là pour renouveler nos pensées en tant que principe de vie. Donc aussi bien sur le plan individuel que sur le plan de l'Église. Donc la vision se présente sous cet angle-là, avec le fait d'être en Christ, c'est notre première nécessité, parce que si nous ne sommes pas en Christ, nous sommes nous-mêmes et nous tournons sur notre ego. Et donc ce qui donne sens à notre existence, c'est d'être en Christ. Notre but, c'est de glorifier Dieu. Et notre mission, c'est de s'édifier comme un corps, comme l'épouse de Christ, et servir en tant que prêtre. Les différentes valeurs sont l'amour de Dieu, premièrement l'adoration qui est l'amour de Dieu, l'amour de la parole qui est l'autorité de la parole, et l'amour du prochain qui est l'accomplissement de la loi, qui est simplement la transmission de l'amour que nous avons reçu et que nous communiquons aux autres. Le service, le témoignage, la famille, l'Église et l'organisation. Je ne rentre pas dans ces détails, sous les trois aspects de l'âme, de l'éthique, de la culture et de l'ordre. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'évangélisation, en tout cas poursuivre, dans les valeurs individuelles, qui sont l'amour, le service et le témoignage, sachant que les valeurs collectives, bien sûr, en tant que communauté, vont s'ajouter là-dessus. Donc la première chose que nous avons vue, c'est l'amour koinonia, parce qu'en grec, eh bien, cet amour-là découle de la koinonia. Alors koinonia, pourquoi j'utilise un verbe grec? C'est parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et quand on veut sonder un petit peu plus un mot, un verbe, une action, il faut venir à la source. Hein. C'est ce qui a permis à la Réforme d'exister, puisque la Réforme, avant la Réforme, ils avaient les écrits en latin. Donc il y avait déjà une transcription, une interprétation du texte original en latin. Et les réformateurs sont revenus au grec, qui était le texte que les apôtres avaient écrit. Donc avec l'utilisation de certains mots qui avaient un certain sens dans leur culture. Et le sens de koinonia, c'est un sens particulier en grec, qui a été utilisé par les apôtres pour exprimer cette communion. Et je vous invite à lire dans 1 Jean. Alors, peut-être je vais aller un petit peu plus loin. Pour dire que le mot koinonia veut dire communion, dans cette acception du langage qui était le grec, mais cette communion qui était l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le moyen de cette communion. C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui nous est transmise par cette koinonie, par cette communion que nous avons avec Dieu. Donc nous recevons dans cette communion avec Dieu l'amour de Dieu. Parce que l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour désintéressé, n'existe qu'en Dieu. savez qu'il y a trois formes d'amour, justement pas en français, il faut retourner en grec pour reprendre ces trois mots, c'est agapé, philéo et eros. Eros, c'est l'amour érotique, c'est l'amour, je dirais, qui s'exprime directement par les sens, qui est aussi une forme d'amour, mais bon, vous voyez que ça, le monde peut l'exprimer. L'amour qui est déjà un peu plus relevé, où c'est l'amour amitié, où on établit des amitiés sur d'autres valeurs que simplement le physique et le sensuel. Et ça, ça se trouve dans le monde. Et c'est là-dessus qu'on a tous les chants d'amour qui sont chantés. Vous voyez, c'est quand même l'amour déjà plus désintéressé qui va vers l'autre, mais ça n'a rien à voir avec l'amour agapé. L'amour agapé, c'est le seul amour que Dieu peut donner. Parce que Dieu peut aimer sans qu'il attende de retour. Il n'est pas centré sur l'ego. Les autres formes d'amour sont centrées sur l'ego. Et on a besoin d'une satisfaction quelque part, même dans l'amour philéo. On attend, disons, on attend, quand je dis « on », c'est notre être qui attend. On n'est pas conscient. Donc on est prisonnier de notre ego, notre satisfaction personnelle. On attend un retour de ce qu'on fait. Alors que l'amour agapé n'attend pas de retour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'attend pas de retour, a priori. Le retour qu'on lui fait, c'est pour notre bien, c'est pas pour le bien à lui. Dieu, il est Dieu. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ, qui a été donné, nous devenons un être qui est digne, qui à nouveau est établi selon la dignité de Dieu, qui nous a créés. Mais Dieu n'attendait pas de retour. Simplement, si le retour est là, eh bien, c'est nous qui sommes bénis. Vous voyez ? C'est nous qui sommes édifiés, c'est nous qui sommes transformés, c'est nous qui sommes des nouvelles créatures. Et ça, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui donne sans chercher de retour. C'est un retour, tant mieux. C'est une communion réciproque, c'est une réconciliation réciproque, etc., etc. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu. Donc, quand nous sommes en communion, en koinonia avec Dieu, cet amour de Dieu est déversé en nous. Nous recevons ce don de l'amour. Voyez-vous, c'est un don, l'amour. C'est pas quelque chose que nous pouvons puiser en nous-mêmes. Vous me suivez? Donc, déjà ça, il faut avoir en tête. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le moyen de cette communion, koinonia. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, dans l'épître de Jean. Je vais lire un peu plus que le verset 3 pour que nous comprenions bien ce que Jean veut, que la parole de Dieu veut nous dire au travers de Jean. Nous vous écrivons au sujet de la parole de vie qui a existé dès le commencement de toute chose. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux. Voyez-vous, l'objectivité de la parole, c'est un témoignage. Jean témoigne de ce qu'il a vu, de ses propres yeux. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos propres yeux, nous l'avons regardée, et nos mains l'ont touché, voyez-vous ? On a touché la parole de vie. Donc c'est pas simplement une parole, lettre morte. Jésus est la parole de vie. Et les apôtres ont pu le toucher. Quand cette vie est apparue, nous l'avons vue. C'est pourquoi nous vous en parlons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Donc, vous voyez, quand on reçoit Jésus, c'est pour ça que quand on fait des appels à recevoir Jésus, on reçoit la vie éternelle parce que Jésus est la vie est en lui. Vous voyez, les scientifiques peuvent toujours chercher la vie, ils peuvent utiliser la vie pour la transformer, mais la vie, elle est en Jésus. C'est quand on reçoit Jésus, quand on connaît Jésus, qu'on connaît la vie qui est un grand mystère pour toute l'humanité, eh bien, elle est en Jésus. C'est pour ça que l'évangélisation, en présentant Jésus, on présente la vie. Voyez-vous ? Et nous sommes des porteurs de vie, et nous sommes. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'évangéliser. Parce que nous sommes là à des personnes mortes, ou tout au moins en train de mourir, d'apporter la vie. Allô ? C'est pas enthousiasmant, ça ? Vous voyez, il faut bien se mettre dans un perspective qui est l'évangélisation. Hein ? C'est pas simplement de dérouler un programme, de faire quelque chose. Non. C'est vraiment de se mettre dans la perspective de dire j'apporte la vie. Et c'est pour ça que c'est pas la peine d'assommer les gens avec des messages, quels qu'ils soient, aussi bien soient-ils. Ça va pas les aider. Ce qu'il faut, c'est leur amener la vie. Et déjà par nous-mêmes, que nous soyons des transmetteurs de vie, que nous soyons remplis de vie. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça cloche, voyez-vous. Ce que nous allons dire, les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et surtout le français en particulier, il aime bien la justice, il aime bien chercher la cohérence, et c'est une bonne chose. Mais soyez cohérents nous-mêmes. Si nous parlons de l'évangile, de l'évangélisation, eh bien que nous soyons nous-mêmes remplis de cette vie, et qu'il le voit sur nous. Alors? Donc, la vie éternelle qui était auprès du Père nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, verset 3, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez unis à nous. Voyez-vous? Le deuxième élément de la koinonia de Dieu, c'est la koinonia, la communion entre les frères et sœurs, entre ceux qui appartiennent à Dieu. Donc voyez-vous, il y a une conséquence directe de cette communion avec Dieu. C'est une communion des hommes, des êtres humains. Et là aussi, vous connaissez tout ce désir de l'être humain, de l'humanisme en général, de faire de cette planète des frères et sœurs, et on danse ça, on chante ça. C'est le souhait de tous, bien sûr, légitime. Mais ce n'est pas parce qu'on souhaite quelque chose qu'on l'obtient. Il faut prendre les bonnes méthodes. Et la bonne méthode, c'est qui nous est révélée dans l'Écriture, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Et cette communion produit la communion entre nous. Voyez-vous? Mais c'est d'abord la communion avec Dieu. Si cette communion avec Dieu n'existe pas, le reste, ce sont des mots, mais vides de sens. Ils n'apportent pas la puissance de l'unité. L'unité, elle est d'abord et vient de Dieu, et ensuite elle se transmet aux frères. Donc afin que vous soyez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ceci afin que votre joie soit parfaite. Là aussi, la joie, c'est quelque chose que l'humanité entière cherche. Alors, vous avez envie de la joie. Et C.S. Lewis, que Yves a cité ce matin, il a écrit ce livre, Surprised by Joy. C'était sa conversion, il a rencontré la joie. Il a été envahi d'une joie. Et c'est cette joie il explique dans ses livres, que cette joie, c'est la construction du royaume. Le royaume de Dieu est fait de joie. Voyez-vous? Quand on rentre dans le royaume de Dieu, on rentre dans la joie. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on soit joyeux. Et même dans les circonstances, regardez, difficiles, Paul et Silas, ils étaient en prison. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Pardon? Hello? Ils chantaient quoi? Ils chantaient pas simplement Robin des Bois ou je sais pas quoi. Non, faut bien préciser ce qu'ils chantaient. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Les louanges de? Allez jusqu'au bout de vos phrases. Hein. Non, c'est important. Les louanges, ils chantaient des chants de louanges à Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est pas simplement n'importe quel chant. C'est quand on élève le nom de Jésus que Jésus prend autorité sur nos ennemis, qu'ils soient physiques, qu'ils soient physiques ou immatériels ou des hommes, etc. Vous voyez, il a ouvert les portes des prisons. Dieu est capable de faire n'importe quoi. Quand on l'élève au-dessus de nous, tous les ennemis fondent, s'en vont. C'est le sens de ce qu'il disait aux disciples quand il disait, si vous avez une colline en face de vous, dites à cette colline de s'en aller. Beaucoup de chrétiens s'essayent comme ça en disant je vais demander à la colline de s'en aller. C'est pas comme ça que ça marche. La puissance n'est pas en nous. C'est pas parce que nous allons prendre d'autorité sur quelque chose. Il faut que l'autorité vienne de Dieu. Et quand l'autorité nous est donnée, que cette colline soit un problème insurmontable dans nos vies, que cette colline soit un ennemi physique qui nous agresse, que cette colline soit, je ne sais pas, quelque chose d'impossible à faire, eh bien, elle va s'en aller lorsque nous élevons le nom de Jésus, lorsque nous rentrons dans la louange, dans l'adoration. Alors, le nom de Dieu est élevé, le nom de Jésus est élevé, et Jésus va mettre cet ennemi sous nos pieds. C'est ça l'enseignement de la parole. Il va mettre cette difficulté sous nos pieds. C'est pour cela que moi-même, je le dis à chaque fois que je le peux, c'est que quand vous avez une difficulté, eh bien, réjouissez-vous de la difficulté, non pas de la difficulté, mais dans la difficulté, parce que cette difficulté va vous permettre de monter une marche dans votre vie chrétienne. Vous aurez appris quelque chose et vous serez plus haut. Vous verrez les choses de plus haut. Et au lieu d'être écrasé par la difficulté, eh bien, vous allez dire, « Oh, super, ce que j'ai appris maintenant dans cette difficulté, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. » Vous pouvez instruire les autres de ce que vous avez appris. Non pas de ce que vous avez entendu, mais de ce que vous avez vu de vos propres yeux Dieu faire dans cette difficulté. Vous me suivez? Alors? Et donc, le royaume de Dieu est de la joie. Nous écrivons ceci afin que notre joie soit complète. On a déjà une joie du salut. Mais la joie de voir les ennemis être vaincus autour de nous, c'est une joie qui est encore plus complète. Parce que nous voyons que Dieu est vainqueur et que ce que dit la parole est vrai. Et c'est ce que nous sommes amenés à faire dimanche après dimanche, et j'espère que ça va crescendo, que nous puissions tous les dimanches dire « Le Seigneur a fait ça dans ma vie, le Seigneur a fait ça dans mon travail, le Seigneur a fait ça, etc. » Mais que nous soyons remplis de joie, et que la louange et l'adoration soient remplies de ces événements de joie que nous pouvons partager devant le Seigneur. Verset 5, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons, Dieu est lumière. » Et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous disons que nous sommes unis à lui, koinonia, c'est le mot koinonia, koinonia avec lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, unis avec lui. Et si en même temps, voyez-vous, si en même temps, vous m'entendez bien? Si nous disons que nous sommes unis en lui et en même temps nous vivons dans l'obscurité, alors? Est-ce que c'est possible ça? Non, mais je ne dis pas. Est-ce que vous voyez ça autour de vous, dans votre propre vie? Est-ce que ça vous est arrivé de dire Dieu est lumière et vous vivez dans l'obscurité? Bon, je crois que si on est honnête, tous, on vit ça. Ce qui est embêtant, c'est ceux qui le vivent, en tout cas les chrétiens, qui le vivent, et qui ne sont pas conscients qu'ils le vivent. Voyez-vous. Quand on est conscient déjà, il y a une possibilité de sortie puisqu'on peut demander pardon. Quand on n'est pas conscient, c'est dramatique, parce que ça emmène à la duplicité. C'est-à-dire, le résultat, c'est devenir des pharisiens. Vous connaissez le résultat des pharisiens en face de Jésus, c'est Dieu a aimé tous ses ennemis, mais il haïssait les pharisiens, au sens de dire, c'est vraiment des gens qui emmenaient le peuple de Dieu dans l'erreur, parce qu'eux-mêmes, ils étaient doubles. Et le diable, en allemand, c'est Zweifel, c'est double. Le diable, ça veut dire double, il est double. Il dit une chose et il dit autre chose. C'est d'ailleurs la particularité de l'homme par rapport à l'animal. Une des particularités de l'homme, c'est de pouvoir mentir avec sa parole. Et c'est terrible combien on peut mentir avec nos paroles. Et on peut dire, mais non, c'est pas vrai, alors qu'en fait, c'est vrai au fond. Vous voyez, c'est incroyable. Si vous lisez un peu les études qui ont été faites sur le mensonge, c'est révélateur de la capacité de l'homme à se mentir à lui-même. Ça s'appelle le déni en psychologie. Et il y a des gens que vous voulez aider à guérir, des chrétiens, vous n'arrivez jamais à les guérir, jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'ils restent dans le déni. Parce qu'ils disent non, c'est pas vrai, dans leur parole, alors qu'au fond, vous voyez bien, tout le monde voit que c'est faux. Donc, ne voyons pas de cela. Donc, si nous vivons dans la lumière, si nous vivons dans l'obscurité, nous montons à la fois en parole et en acte. Voyez-vous, on ment dans les deux sens. On ment par nos paroles, parce que c'est faux, et puis en acte, parce qu'en fait, les actes ont produit d'autres actes, et tout l'entourage, c'est faux. Et on ne peut pas avoir de communion véritable. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pas extraordinaire? Voyez-vous, nous cherchons à être purifiés par le sang de Jésus. Nous cherchons à être saints, hello, en tant que chrétiens. Ce n'est pas parce que nous le cherchons que nous le sommes. Mais là, il y a un verset clair qui nous dit que si nous vivons dans la lumière, si nous sommes vrais, ça s'appelle l'intégrité, intègre, c'est-à-dire vrai. Et c'est assez étonnant que parfois les catholiques, certains catholiques, nous donnent des leçons. Quand j'étais avec les fabricants de joie à l'Assemblée nationale, on avait une entrevue avec Christine Boutin, qui nous a emmenés dans son cabinet personnel. Bon, on peut être à 200, hein, bon, c'est pas une petite pièce. Et puis on a prié pour elle. Et puis elle a prié avec nous et tout ça. Et elle a dit, moi j'ai vu tous les députés de l'Assemblée nationale, j'aurais dit, mais vous êtes chrétien, parce qu'ils savaient qu'ils étaient chrétiens, catholiques ou protestants. Et pratiquement tout le monde avait dit, je n'en ai pas trouvé un qui a voulu avec moi vraiment être un témoin dans cette Assemblée nationale. Hein, parce qu'ils ont dit, mais Christine, toi, t'es folle, toi. T'es folle, t'as qu'à faire comme nous. Nous, on est là pour une fonction. On nous a élus pour une fonction. On est là pour une fonction. Et puis notre vie personnelle, eh bien, on la vit personnellement. Voyez-vous, ils se sont conformés à l'esprit du monde qui dit que la foi en France doit être privée. Mais Christine a dit, non, moi, je suis intègre. Je suis une. Ce que je crois, je le pense. Voyez-vous la leçon qu'elle donne? Ça, c'est l'intégrité. Et c'est vrai que si on n'est pas intègre, si on est double, comment voulez-vous que le témoignage y passe? Hein? Parce que Dieu, est-ce que Dieu est double? Est-ce que Dieu se cache? Est-ce que Dieu dit, ah, moi je suis là pour une fonction et puis je garde ma vie privée? Hein? Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il partage sa vie. Il nous partage sa vie. Nous devons être de ceux qui partageons notre vie, notre cœur. Nous devons rester intègres. Eh bien, si cela est vrai, le sang de Jésus nous purifie. Et voyez-vous, le secret de la sainteté, de rester pur devant Dieu, d'être gardé. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent, tout simplement, parce qu'ils laissent cette duplicité entrer dans leur vie. Et le sang de Jésus ne purifie plus. Le sang de Jésus ne peut purifier que ceux qui restent dans l'intégrité avec Dieu. De ceux qui veulent être dans cette dimension de lumière, de transparence, aussi bien avec Dieu qu'avec les autres. Et on sent la différence des chrétiens qui sont intègres. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de solide, quelque chose qui se construit. Quelque chose qui ne peut pas vaciller, où l'ennemi peut rien faire, parce que Jésus, il a dit quoi quand il est arrivé devant l'épreuve la plus dure de sa vie, la croix? Il a dit, le diable, qui venait au travers de lui par Judas, parce que Judas est entré directement dans, Satan est entré directement dans Judas pour trahir Jésus. Jésus a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ce qui est important, c'est que le diable n'a rien en nous. Si le diable a quelque chose en nous, il peut l'utiliser pour ses propres desseins. Donc il se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Et avoir quelque chose en nous, c'est la duplicité, c'est le mensonge, c'est les ténèbres qu'on garde, que ce soit un péché, que ce soit une pensée, que ce soit toutes sortes de choses qui sont pures, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas dans la lumière. Si nous disons que nous sommes sans péché, verset 8, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, par confiance en lui, car il agit de façon juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. C'est fort, ces paroles. Voyez-vous, il y a peut-être des choses parfois. Hein, le sexe des anges et tout, bon, on peut en discuter. Ça a été l'occasion pour l'Église de réunir des conciles là-dessus. Mais il y a des choses qui sont claires, claires. Et ces paroles-là sont claires. Si nous sommes intègres, si nous sommes droits, si nous sommes dans la lumière, dans la communion avec Dieu, eh bien, nous devons être comme Dieu, dans la lumière. Et c'est pas très compliqué, la lumière. Le problème, c'est que c'est dur de rester toujours dans la lumière. Mais ça commence par les petites choses. Je prends toujours cet exemple-là parce que Michel était frappé par son père qui était très, très athée, hein, c'était un Français très, très athée, mais le Seigneur un jour l'a touché au bout de 10 ans de prière de sa femme. Et vraiment, il a changé. Et quand il était au travail, il était imprimeur, vous savez, il mettait des petits. Maintenant, ça n'existe plus. Truc d'en plomb, là, voilà. Et puis, dans son travail, bah, il y a des poussières, il y a des trucs de plomb. Et vous savez que le plomb, il vaut pratiquement rien. C'est pas de l'or, hein. C'est pas du cuivre, hein. C'est pas de l'argent. Bon, tout ça, c'est très. Le plomb, bon, ça coûte un petit peu, mais c'est pas des denrées. Eh bien, comme il avait des pantalons, ça n'existe plus là, ce qui sont recourbés comme ça, ben, il y avait un petit peu de poussière de plomb. Ben, il prenait ce plomb-là tous les mois, il le mettait dedans et il le ramenait à son travail. Et ça touchait les enfants qui voient l'intégrité d'un père qui est dans la lumière. Voyez-vous, ça paraît ridicule, mais c'est pas ridicule parce que c'est un message. C'est une façon d'être droit, d'être dans la lumière. Et là, l'ennemi ne peut pas. Moi, j'ai jamais vu mon père être Il était toujours dans la joie, il était, de toute façon, nos enfants ont de très bons souvenirs de lui et tout ça. C'était pas un homme qui se prenait pour une vedette, mais il était simple et il n'avait jamais, il était jamais harassé par un problème existentiel ou je sais pas quoi, etc. Non, il était dans la joie, il était dans une joie simple. Mais c'est parce qu'il restait dans la lumière. C'est pas des choses compliquées, mais c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit radicaux. C'est la radicalité. Jésus, du message de Jésus. Si nous voulons être en communion, la koinonia de Dieu, eh bien il nous faut vivre comme Dieu lui-même, dans la lumière. Amen. Et le problème, c'est que si nous commençons à déraper un tout petit peu, vous savez comment c'est, et nous disons un petit mensonge, et si nous ne le reprenons pas tout de suite, ce petit mensonge devient un autre, etc., etc., et puis après on ne peut plus le maîtriser. Donc au départ, restons toujours dans la lumière. Amen. Nous sommes appelés à être en communion, en koinonia, en communion avec Dieu. C'est là que découle la vie de Dieu. Et ceci nous conduit à la communion avec les frères. C'est dans ce sens-là que les choses marchent et pas dans l'autre sens. Nous vivons dans l'union avec Dieu. La vie prend son origine en Dieu et en Jésus-Christ. Et cette communion, si elle n'est pas d'abord en Dieu, eh bien, il n'a pas de sens, en tout cas pas de sens biblique. Il peut avoir un sens humain, mais pas biblique. L'union en Dieu, Père et Fils, par le Saint-Esprit qui nous est donné, nous rend participants de la nature divine. Ça, c'est un autre texte fondateur de notre vision. C'est 1 Pierre, non, 2 Pierre. 2 Pierre 1, 4. C'est un texte qui fonde aussi notre vision. De Pierre 1, 4. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et de très grandes promesses, afin qu'en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper au désir destructeur qui règne dans le monde. C'est fort ça. Pour échapper au désir destructeur qui règne dans le monde. Vous voyez, le monde, c'est pas juste, c'est joli le monde, etc. Non, il y a un désir destructeur du monde, parce qu'il est hostile à Dieu. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc ce désir destructeur, on ne peut pas y échapper comme ça parce qu'on a envie d'y échapper. C'est une force, c'est un aimant qui nous attire, qui attire notre chair, etc. Mais pour y échapper, donc qui règne dans le monde, et participer à la nature divine. Et où la participation à la nature divine, c'est ce qui. Le seul moyen, c'est la communion avec Dieu, la koinonia, avec Dieu. Et c'est de là que ça nous donne la force d'échapper aux désirs destructeurs de ce monde. Or, la nature divine, participer à la nature divine, c'est participer à l'amour, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand vous regardez la façon dans les civilisations, dans les cultures du monde entier depuis des siècles, combien l'ennemi, Satan, a voulu détruire cette compréhension que Dieu n'est pas amour. Regardez. Y compris chez les Juifs qui disent, l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses, bien sûr, ça nous décrit l'être humain qui fait des choses qui ne sont pas de l'amour, c'est vrai, mais ça décrit l'être humain. Mais Dieu est amour. Et à chaque fois que nous perdons cette conviction que Dieu est amour, nous perdons quelque chose de notre nature divine que nous avons en communion avec Dieu. Parce que nous faisons Dieu menteur. Parce que nous disons que Dieu n'est pas amour. Et même si nous ne le disons pas par notre langage, nous le disons par notre être. Et nous ne pouvons pas communier à cet amour. C'est pour ça que dans notre vision, la première valeur, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'adoration. L'amour de la parole, qui est l'amour de la vérité. Et l'amour des autres, qui est l'accomplissement de la loi. C'est la première valeur. La deuxième valeur, c'est la lumière. La lumière, il n'y a en Dieu aucune ténèbre. Si nous vivons dans la lumière, c'est vertu à faire le bien, cette disposition intérieure à faire le bien, la lumière, hein, c'est faire le bien, faire la parole de Dieu, eh bien nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je parlais hier à un de mes voisins, là, Daniel, qui a eu des déboires dans son entreprise, donc il a eu une liquidation de son entreprise, il a des dettes et tout ça. Il a dit, c'est la première fois que j'étais convoqué au tribunal. Et il a dit, bon, moi c'est vrai que j'ai jamais été au tribunal, j'ai jamais été mis en accusation et tout ça. Mais il a dit, c'est incroyable, entre la vision qu'on en a, je ne sais pas quelle est la vision que vous avez des tribunaux, mais bon. Telle une fois. Bon, on peut avoir une vision assez idyllique, hein, mais il a dit, quand on y est, ça change les choses. Il dit, c'est la corruption. Quand vous payez, il a dit, quand au début il y allait tout seul, il était écrasé, quand il a payé un avocat, c'était terminé. On lui disait, monsieur, vous pouvez continuer votre activité, alors qu'il était en liquidation judiciaire. Oui. Je veux dire, vous dites, où est-ce que je suis? Bon. Et on est en France, hein. Pourquoi? Parce que c'est l'égoïsme, c'est, il n'y a pas cet amour désintéressé. Les avocats, bon, s'ils peuvent se mettre dans la poche, bon, c'est un entrepreneur, c'est une personne, je veux dire, bon, ça, hein, bon. On fait attention quand c'est médiatisé, hein, attention quand c'est médiatisé, quand c'est des gens du gouvernement, fais attention parce que tous les journalistes, les machins en parlent, bon. Là, on se méfie, c'est tout, hein. Ça ne veut pas dire que la corruption n'existe pas, ça veut dire qu'on se méfie d'être pris. La différence entre la repentance et d'être pris, le regret du monde. Hein. Il y a ce qu'on appelle la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde, c'est des gens qui sont pris dans le sac. Ah, ils sont tristes. Vous avez l'impression qu'ils se repentent. Non, ils ne se repentent jamais. Nous, on avait des chrétiens, vous connaissez certains dans l'église. Ils étaient toujours dans cet esprit-là. Ah, j'étais pris. Alors bon, ils faisaient un truc, bon, vous avez l'impression qu'ils se repentent, ils ne se repentaient pas. Bon, et il continuait derrière en espérant qu'il ne soit pas pris. Ça, ce n'est pas de la repentance. La repentance, c'est au fond de soi-même dire, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Reconnaître qu'on a péché contre Dieu avant de pécher contre les hommes. Vous voyez ? Ça, c'est une conviction de péché. Et là, on change au fond de lui-même. C'est la métanoïa, le changement de pensée. On dit, je n'agirai plus comme ça. Seigneur, aide-moi à être intègre dans toutes mes voies. Comme le disait David, c'est pour ça que David avait le cœur de Dieu. Il changeait ses voies radicalement, et il ne tombait plus dans les travers qu'il avait. Donc la lumière est un élément essentiel pour vivre les uns par rapport aux autres, sous la purification du sang de Jésus. Et c'est pourquoi, dans la deuxième valeur, verset alinéa numéro 1, 2.1, qui est le service, c'est la repentance comme un style de vie. C'est ça que ça veut dire, la repentance comme un style de vie. C'est-à-dire que la repentance, ce n'est pas juste je me repens pour mes péchés, je suis sauvé. Non. C'est, je me repens dans le sens où je laisse mes pensées renouveler. La métanoïa. Je laisse le Saint-Esprit changer mes pensées pour que je reste toujours dans la lumière, comme Dieu est lumière, dans la vérité, comme Dieu est lumière, comme Dieu est vérité, etc., etc. Vous voyez, je reste dans la perspective de Dieu pour rester dans la lumière et que l'ennemi n'ait rien en moi, pour que je sois toujours vainqueur de ma vie, pour que je puisse toujours marcher sur les serpents et les scorpions, pour que je puisse toujours avoir la victoire dans ma vie. C'est là le sens de la victoire du chrétien. Amen. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit l'autre fois au niveau de la koinonia, de l'adoration, mais je reviendrai une autre fois sur ce qui nous empêche, hein, sur l'aspect négatif qui nous empêche dans cette communion. Mais pour dire que le sommet de la koinonia, c'est l'adoration. Et c'est pourquoi l'adoration, c'est ce qui nous amène vraiment à... Vous voyez, quand on est dans l'adoration, eh bien, le Seigneur nous purifie. Le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous montre. Regardez Ézéchiel, quand tous les hommes de Dieu, entre autres, qui rentraient dans la présence de Dieu, ils étaient purifiés. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu sans être purifié. Et dans l'adoration, le Seigneur nous purifie. Et c'est pourquoi il faut tellement, tellement désirer l'adoration. Le deuxième point de l'évangélisation, c'est le service, la diaconia. Ça, c'est le mot grec est utilisé, diaconia. C'est pourquoi les ministères dans l'Église, que ce soit pasteur, évangéliste, tout ce que vous voulez, qui ont des responsabilités de direction, de gouvernement, ce sont des diaconos, des serviteurs. Comme Jésus, Jésus était serviteur. Hein, et on le lit tous les dimanches. Et donc, le mot diaconie donne le sens de du service. Diaconia, c'est service, et diakonos, c'est serviteur. Tous les serviteurs de Dieu devraient être serviteurs. Hein, serviteur-leader, pas leader-serviteur, c'est serviteur-leader, hein, dans ce sens-là. Leader pour conduire, mais c'est avant tout. Et c'est ce sens-là que Jésus a instauré lorsqu'il a enseigné ses disciples, en disant dans le monde, vous cherchez des titres, vous cherchez des places, vous cherchez dans le royaume de Dieu, vous êtes serviteurs, vous servez les autres. Et c'est Jésus qui a donné l'exemple en premier, comme le maître. Galates 5,13 nous dit « Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service des uns les autres. » Voyez-vous, l'amour, c'est toujours le point d'entrée, je dirais. Hein. C'est la vie de Dieu, sans l'amour agapé de Dieu, nous ne pouvons pas servir. Nous pouvons servir, mais avec notre propre force, nous allons nous épuiser. Hein. Certains chrétiens, par leur propre force, veulent servir. Mais c'est pas ça. C'est d'abord la communion avec Dieu qui nous donne l'amour et qui nous donne la force de servir, et nous le servirons dans le discernement aussi. Hein. Parce que nous pourrons aussi, dans le service, faire du discernement spirituel pour ne pas faire n'importe quoi et nous épuiser. Mais nous le ferons parce que Jésus n'a pas guéri tous les malades qui étaient autour de lui. Il le faisait selon ce que le Père lui montrait. Donc, premier verset. Deuxième verset, Marc 10, 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus a donné l'exemple du service. Dans Éphésiens 4, 11, « Il a donné les uns comme apôtres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère ou du service. » Que les deux mots sont les mêmes en grec, et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes appelés à être serviteurs de Dieu et des hommes, bien sûr, à l'instar de Jésus. Évangéliser par le service, par la, diaconia. Je ferai juste deux interventions sur le service et sur le ministère. Le mot service, on va l'utiliser pour une attitude de service. Et le mot ministère comme une institution. Faire du ministère, hein. Souvent c'est les Anglais qui utilisent ça, faire du ministère. C'est quand on exerce dans le cadre d'une institution, quand on prie pour quelqu'un ou quand on exerce un service auprès de lui. Bon, c'est des mots qui se rejoignent, mais on va juste l'utiliser dans cet esprit-là. Donc, une attitude de service. Par l'enseignement de Jésus, hein, par son enseignement et son exemple, le Seigneur montre que la grandeur véritable, selon Dieu, se mesure non pas par la distance que l'on monte pour rechercher les honneurs, les titres ou le prestige, ou pour exercer le pouvoir, mais par la distance que l'on descend dans un esprit de service. Voyez-vous, le monde, il nous aide à monter, ce qu'on appelle l'échelle sociale, hein, pour chercher le pouvoir, etc. Et ça, c'est la conception du monde. Et Jésus reprend ses disciples, il disait non, le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est la distance qui vous sépare de votre esprit de service. Quand vous descendez de votre esprit de service, c'est ça qui fait de vous un serviteur de Dieu. Et ça, c'est bien sûr choquant. C'est choquant pour notre chair, c'est choquant pour notre recherche de servir, parce que ça va à l'encontre des systèmes du monde. Si dans le monde vous faites ça, eh bien vous ne pourrez jamais avoir de responsabilité, parce qu'on vous demande de prendre l'autorité, on vous demande de diriger, et c'est pour ça que moi j'ai eu beaucoup de mal dans le sens où j'étais bivocationnel, puisque je travaille de responsabilité, parfois j'avais jusqu'à 200 personnes à diriger, et donc j'avais cette nécessité d'être comme ça. Et puis dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse, dans l'Église, c'est l'inverse. Donc vous voyez, il faut avoir cette souplesse de dire non, là on est des serviteurs. Moi je suis à votre service. Dans l'enseignement, dans les soins pastoraux, etc. Mais aucun pouvoir. C'est Jésus qui a le pouvoir, c'est lui seul qui a le pouvoir. Nous sommes sous son autorité. Tous, nous sommes des prêtres. Nous sommes sous son autorité. Et c'est la communion avec Dieu, pas la communion avec un homme, qui nous donne l'autorité sur nos ennemis, l'autorité sur nos difficultés, l'autorité sur le diable. Hello ? Voyez-vous, donc, l'esprit de service, c'est à l'envers de ce qu'on nous apprend dans le monde. C'est la distance que l'on descend dans un esprit de service. C'est dans la mesure où j'accepte de m'abaisser pour devenir serviteur de mes frères, que je découvre mon rôle de diakonos, de serviteur, et que j'évangélise dans une action parallèle et complémentaire, celle de la parole, dans mon attitude, mes yeux, mes mains, mes pieds, mon travail. Ce matin, on a chanté « Seigneur, j'ai vu tes mains ». Est-ce que nous voyons, est-ce que le monde voit nos mains servir ? Alors, c'est vrai que nous vivons dans un pays de formation catholique. Et dans le catholicisme, cette notion de serviteur a complètement été déformée, puisque c'est plutôt compris comme quelque chose où on est à la merci des autres, quoi. On est corvéable à merci, etc. Et c'est ça que le monde ne veut pas. Et c'est pas ça non plus que la Bible enseigne. Le serviteur, c'est pas de tout faire pour les autres. C'est pas de se crever à tout faire pour les autres, c'est pas ça. C'est une attitude intérieure de cœur qui fait qu'on ne recherche ni les titres, ni les honneurs, ni le pouvoir, ni la gloire, mais simplement, Seigneur, je suis à ton service, dans cette communion avec Dieu. Vous voyez, c'est toujours la communion avec Dieu qui nous donne ensuite l'esprit de service pour que nous puissions servir efficacement dans le royaume de Dieu. Une église qui sert de refuge pour offrir accueil, écoute, compassion, encouragement, qui se livre à un service dans l'exercice de différents charismes accordés en vue d'un ministère de délivrance, de guérison, dans la conformité bien sûr à la volonté de Dieu, eh bien cette Église rend un témoignage puissant et fécond et elle révèle l'actualité et la puissance de la bonne nouvelle. Je me répète, une Église pas simplement qui invite des évangélistes, j'ai rien contre les évangélistes, au contraire, mais qui ne fait que ça, et qui n'est pas évangélisatrice dans son comportement, dans son attitude de serviteur, eh bien ça ne portera pas de fruits. Parce qu'en fait, admettons qu'il y ait des gens qui lèvent la main à un appel. Ok, ils acceptent le Seigneur. Derrière, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils vont vous suivre vous, ils vont nous suivre nous, ils vont prendre un exemple. Donc en fait, nous on va déformer ces gens-là, c'est grave. Parce qu'on va leur donner un mauvais exemple, puis après on va se plaindre qu'il y a des divisions de problèmes dans l'Église. Pourquoi c'est nous qui l'avons généré ? Alors, vous me suivez ? Si nous sommes des diakonos, des serviteurs, si nous montrons l'exemple, eh bien cet exemple va être pour ces personnes-là ce qu'ils voient. Après qu'ils fassent autre chose, c'est leur responsabilité. Alors ? C'est leur responsabilité. Mais ça se verra. Et ces personnes ne pourront pas rester en notre sein, s'ils ont un autre esprit, c'est tout. Et s'ils cherchent l'esprit de service, eh bien, ils vont coller grâce à l'exemple que nous leur donnons. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est notre exemple qui parle plus que nos paroles, parce que les gens regardent à ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et ça, c'est l'évangélisation qui va amener du fruit de croissance pour le royaume de Dieu. De croissance réelle. Pas simplement croissance numérique, mais les deux, la croissance dans le royaume de Dieu. Le ministère, je terminerai là-dessus, qui est un peu l'institution, qui est plutôt le. Vous entendrez parler de ce mot de stewardship. Alors, steward, c'est pas simplement la personne qui est dans l'avion ou vous sert. Hein. Ça, c'est une déformation de steward. Steward, c'est français, hein, le mot. Hein. Parfois, on dit oh, c'est l'anglicisme. Non, steward, c'est français. C'est les Anglais qui ont pris nos mots. Hein. bon, qui sont venus après. Nous, on a copié sur les Grecs et les Latins. Steward, c'est français. Stewardship, c'est anglais, c'est vrai. Le ship qui suit. C'est la conception du steward. La conception du steward, c'est dans la Bible, hein, vous avez ça dans Ézéchiel, vous avez ça hier, Michel m'a montré des passages dans l'Ancien Testament du steward. Par exemple, non pas Ézéchiel, c'est le serviteur d'Éliézer, d'Abraham, était steward. Et le steward, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui gère les biens de son maître. C'est noble, il gère les biens de son maître. Le maître, bon, il a un tas de choses à faire, il a un steward, il lui confie les biens, mais y compris ses enfants. Élever ses enfants, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Bon, steward, il faisait ça. Donc il était pédagogue. Il gérait sa propriété, il gérait ses affaires. Vous voyez, un gestionnaire, mais au sens noble du terme. Eh bien, nous sommes appelés, dans le cadre de serviteurs, à être des stewardship, hein, faire du stewardship, être des stewards. C'est-à-dire des gens qui géreront quoi? Qu'est-ce que nous avons à gérer? Alors? Les grâces, les charismata, les dons. Que Dieu nous donne. Parce que si nous gérons nos propres talents, nous allons déformer là aussi, parce que nos talents sont impropres, parce qu'ils sont de nature. Mais si nous recevons un don de Dieu, et c'est pour ça que quelqu'un qui, par exemple, peut faire une musique extraordinaire par talent naturel, il faut qu'il passe par cet état de transformation où il ne prend pas son don pour l'utiliser, mais il le reconnaît comme étant un don de Dieu. Donc ce sont les grâces de Dieu. C'est les charismata, les charismes. Alors, ça peut être des charismes naturels, de talent, ou des charismes spirituels, dons de connaissance, dons de discernement, dons de puissance, dons de guérison, etc. Donc, ces dons-là que nous les gérons correctement, comme des, pour le bien du maître qui nous les a confiés. Alors, vous voyez, ça prend sens. Donc, nous avons à utiliser les dons que Dieu nous donne, donc il faut rechercher les dons. Et l'apôtre Paul a dit, bon, déjà commencez à rechercher le parler en langue, parce que ça vous édifie, mais tous les autres dons. Tous les autres dons. Parce que Dieu donne des dons, et il faut que l'Église, il faut que les chrétiens soient équipés des dons. Mais non pas par leur propre force, mais ils utilisent et laissent remplir par les dons, ils discernent les dons qu'ils ont reçus, et ils les gèrent comme des stewards qui est pour leur maître. C'est ça, l'esprit du serviteur. Vous voyez que c'est très noble, c'est très élevé. Dans l'esprit où on descend dans l'échelle de notre conception du pouvoir, c'est plus on est serviteur, plus on a l'autorité, mais dans l'esprit de stewardship, de gérer les dons que Dieu nous a donnés pour sa gloire. Amen. Donc, le ministère d'enseignement de la parole en vue de l'édification, par exemple, Éphésiens 4, hein, Dieu a donné des serviteurs à l'Église, apôtres, etc. Donc, le ministère de serviteur extraordinaire comme les apôtres, les prophètes, ou ordinaire comme les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, n'a pour objet que de préparer les fidèles pour ce ministère général de serviteurs de diaconos. Tous les fidèles sont appelés à être des serviteurs, tous. Et les enseignants, donc enfin, tous les ministères d'Éphésiens 4, sont là pour ça, pour équiper les saints en vue du service, en vue de l'œuvre du ministère, en vue du service. Pardon ? Donc vous voyez, l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un corps institué, ce n'est pas l'affaire des évangélistes, c'est l'affaire de tous. C'est tous, parce que nous sommes préparés par des gens qui ont reçu le ministère d'enseignement pour nous aider à rentrer dans ça. Un ministère d'enseignement qui ne veut pas dire simplement enseigner la parole, c'est aussi par leur attitude. L'évangéliste, ce n'est pas simplement celui qui prêche, c'est aussi celui qui va dans la rue, qui va chercher des gens, qui va au contact, etc., qui a des contacts. Qui par son attitude, on voit que c'est un évangéliste, par exemple. Hein. C'est vrai pour tout le reste. Donc on peut affirmer que le ministère systématique d'enseignement biblique pour l'édification des églises est déjà en soi un moyen puissant d'évangélisation. Et je termine sur un exemple de Frank Horton. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Frank Horton? Oui, bien sûr, les gens du groupe public universitaire le connaissent. C'est un de ceux qui ont fondé en France, enfin refondé un petit peu après la guerre, le ministère des groupes bibliques universitaires, donc l'évangélisation dans les universités, qui sont les GBU et l'IFES qui est international. Et Frank Horton, c'est un Canadien qui était venu dans les années 50 en France. Et il y avait quelques embryons, il y avait très peu, les Peter Schmid, enfin des familles un petit peu cunes qui étaient dans les groupes bibliques universitaires, mais ce n'était pas répandu. Et Frank Horton est venu pour construire ces groupes bibliques universitaires qui sont un peu comme des présences dans les universités. Et il a eu cette expérience, c'est un enseignant, hein, que j'ai, ensuite je l'ai rencontré au Canada quand j'y étais. C'est un homme très solide dans la foi. Et voilà ce qu'il dit. Pendant 12 ans en France, de 52 à 64, donc Frank Horton était secrétaire général des GBU, il a organisé et dirigé diverses sortes de camps sous l'égide donc des GBU, avec des retraites d'approfondissement pour les chrétiens, des camps de formation pour cadres, pour pour équiper les responsables des groupes locaux. Voilà ce qu'il dit. Les engagements sérieux dans la vie chrétienne furent, sauf exception, les fruits des camps pour croyants. Parce qu'ils faisaient des camps, comme toujours aujourd'hui, des camps pour des chrétiens, et puis des camps d'évangélisation. Alors que les camps d'évangélisation, où on ramenait des incroyants, nous laissèrent parfois avec un sentiment de frustration. Ah, frustration parce que parfois vous invitez quelqu'un, il ne vient pas. Ça vous est déjà arrivé? Bon, sentiment frustration. Frustration parce que bah, des fois, ils mettent le souk un peu dans les trucs. Enfin bon, c'est pas évident. Bon. Donc il dit, il avait ces deux camps-là qu'il faisait. Et nous avons connu dans les années 70, et donc il reconnaît que, enfin, il dit que c'est dans l'enseignement, parce qu'il donnait un enseignement, que les choses ont été fondées. Et c'est vrai que moi, avec Michel, j'étais aussi trésorier puis vice-président des GBU. Et dans les années 70, quand on est revenu du Canada, 74, on a connu effectivement les fruits de cet enseignement de Frank Horton. Entre autres, hein, il n'y avait pas que lui, mais ou par exemple avec Jacques Torisson et puis Jean-Jacques Engel, eh bien, il y avait tellement d'étudiants qui venaient que quand on faisait des camps à Nîmes pour les rassembler, avec plus de place, il y avait 400 étudiants qui venaient. Parce que ceux qui étaient fondés sur cette parole, qui étaient des témoins, eh bien, ils émanaient de cette grâce et ils amenaient les étudiants par leur témoignage, pas simplement par les amphis qu'ils faisaient pour que le message soit apporté par quelqu'un d'autre, mais ils l'apportaient eux-mêmes. Et c'est des gens qui étaient ancrés vraiment, et nous avons beaucoup été bénis dans ces temps-là. Donc, le diakonos, qui est un des moyens d'évangélisation, être des serviteurs. Et le dernier, c'est le kérigme, hein, c'est le témoignage par le kérigme, c'est la parole. Hein. Ça, bien sûr, il faut pas la mettre de côté, c'est très important. Le kérigme, c'est la, en grec, ça veut dire déclaration à haute voix de la parole. Donc ça, il faut le faire. Nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu, source de vie éternelle pour tous les hommes. Et on termine, mais là je vais pas le faire, je vais juste vous l'afficher. Mais c'est bien sûr répondre aux besoins de notre prochain par la prière, la délivrance, la guérison. Mais aussi, je crois, il faut rechercher les besoins. Hein. Et ça, c'est la manière dont on veut créer l'église ambassade. Hein. Nous avons l'église épouse, l'église maison de prière, l'église ambassade. L'église ambassade, c'est de dire on est serviteur de Dieu. Et on est à l'écoute des besoins de nos contemporains. Voyez-vous, les besoins en Afrique, ce n'est pas les mêmes, que ce soit les Vernon, que ce soit Gabriela, etc. Bon, il y a des besoins évidents, sanitaires, etc., auxquels on peut faire face pour être témoin. Mais nous, dans nos sociétés occidentales, où des gens ont tout ce qu'ils veulent, sur le plan matériel, il y a d'autres besoins. Et je crois que c'est à cela que Dieu nous appelle à donner des réponses. Et c'est surtout dans le domaine mental, domaine de l'identité, dans le domaine de l'identité, que ce soit au travail, hein, donc la solitude, l'isolement, les pertes de repères, de sens, les familles en difficulté, les pertes de travail, les pertes d'identité, quelles qu'elles soient, que ce soit sexuelle ou autre, la société en crise à tous les niveaux, le suicide, la dépression, etc., etc. Il faut que nous demandions au Seigneur l'intelligence de trouver. Et Kingdom Faith, il y a Elsa qui est là-bas, il apprend beaucoup, parce qu'il voit une église en action dans le domaine de l'ambassade. Il cherche à répondre aux besoins. Parfois des trucs un peu farfelus, mais qui touchent les gens. Je vous dis juste un truc farfelu pour montrer le genre de choses. C'est Colin Urquhart disait, tous les mois, ils font une soirée dansante. Comme ici, on enlève toutes les chaînes, on fait une soirée dansante pour les petits vieux. Et on leur passe les chansons de leur époque. Vous voyez, c'est pas des chansons déviées, mais bon, ça leur rappelle Aznavour ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Et puis ils dansent là-dessus. Et puis il y a les chrétiens qui sont là, qui témoignent et qui répondent à leurs besoins. Et à partir de là, il y en a qui viennent à l'église après. Oui, il faut qu'on soit inventif. Parce qu'ils sont dans la solitude, et ils s'ennuient, ils se retrouvent plus avec la nouvelle génération. Bon, ils font ça. Et puis un autre jour, ils ont monté une Ferrari. Formule 1, parce qu'ils avaient en plein à côté, ils ont enlevé l'estrade, ils ont mis la Ferrari. Mais ils sont très inventifs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le souci de dire Les gens qui sont passionnés par la Formule 1, eh bien, nous, on a un pilote de Formule 1 dans notre église, eh bien, il va témoigner. Et puis, je vais vous dire, là, les gars, c'était rempli. Hein, et au passage, bah, ils avaient l'occasion de discuter avec les gens, en montrant déjà que l'église, c'est pas un sanctuaire où on vénère, je sais pas quoi, un autel avec des reliques, non. C'est un lieu où on vient adorer Dieu. Mais vous, tous ces messages, c'est l'ambassade. Comment est-ce que nous pouvons témoigner à notre monde, sans reproduire des schémas anciens ou il y a 300 ans, mais des schémas actuels. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui vient dans nos cœurs et qui nous aide à être inventifs pour partager le royaume, parce que nous avons un message extraordinaire à partager. La vie éternelle en Jésus-Christ. Amen.